Chapitre 2. C'est la force et la bonté des religions d'enseigner à l'homme sa raison d'être et ses fins dernières. Mais quand on a repoussé les dogmes de la théologie morale, comme nous l'avons fait presque tous en cet âge de science et de liberté intellectuelle, il ne reste plus aucun moyen de savoir pourquoi on est sur ce monde et ce qu'on y est venu faire. Le mystère de la destinée nous enveloppe tout entier dans ses puissants arcanes. Il faut vraiment ne penser à rien pour ne pas ressentir cruellement la tragique absurdité de vivre. C'est là, c'est dans l'absolue ignorance de notre raison d'être qu'est la racine de notre tristesse et de nos dégoûts. Le mal physique et le mal moral, les misères de l'âme et des sens, le bonheur des méchants, l'humiliation du juste, tout cela serait encore supportable si l'on concevait l'ordre et l'économie et si l'on y devinait une providence. Le croyant se réjouit de ses ulcères. Il a pour agréable les injustices et les violences de ses ennemis. Ses fautes même et ses crimes ne lui ôtent pas l'espérance. Mais dans un monde où toute illumination de la foi est éteinte, le mal et la douleur perdent jusqu'à leur signification et n'apparaissent plus que comme des plaisanteries odieuses et des farces sinistres. Il y a toujours un moment où la curiosité devient un péché, et le diable s'est toujours mis du côté des savants. Me trouvant à Saint-Lô il y a une dizaine d'années, je rencontrais chez un ami qui habite cette petite ville montueuse un prêtre instruit et éloquent avec lequel je pris plaisir à causer. Insensiblement, je gagnais sa confiance et nous eûmes sur de graves sujets des entretiens où il montrait à la fois la subtilité pénétrante de son esprit et la divine candeur de son âme. C'était un sage et c'était un saint. Grand casuiste et grand théologien, il s'exprimait avec tant de puissance et de charme que rien dans cette petite ville ne m'était excité si cher que de l'entendre. Pourtant, je demeurai plusieurs jours sans oser le regarder. Pour la taille, la forme et l'apparence, c'était un monstre. Figurez-vous un nain bancal et tort, agité d'une sorte de danse de Saint-Guy, et sautillant dans sa soutane comme dans un sac. Sur son front, des boucles blondes de cheveux, en révélant sa jeunesse, le rendaient plus épouvantable encore. Mais enfin, ayant excité mon courage à le voir en face, je pris à sa laideur une sorte d'intérêt puissant. Je la contemplais et je la méditais. Tandis que ses lèvres découvraient dans un sourire séraphique les restes noirs de trois dents et que ses yeux, qui cherchaient le ciel, roulaient entre des paupières sanglantes, je l'admirais. Et loin de le plaindre, j'enviais un être si merveilleusement préservé par la déformation parfaite de son corps, des troubles de la chair, des faiblesses des sens et des tentations que la nuit apporte dans ses ombres. Je l'estimais heureux entre les hommes. Or, un jour, comme tous deux nous descendions au soleil la rampe des collines, en disputant de la grâce, ce prêtre s'arrêta tout à coup, posa lourdement sa main sur mon bras et me dit d'une voix vibrante que j'entends encore. Je l'affirme, je le sais, la chasteté est une vertu qui ne peut être gardée sans un secours spécial de Dieu. Cette parole me découvrit l'abîme insondable des péchés de la chair. Quel juste n'est point tenté, si celui-là qui n'avait de corps, se semble que pour la souffrance et le dégoût, sentait aussi les aiguillons du désir. Les personnes très pieuses ou très artistes mettent dans la religion ou dans l'art un sensualisme raffiné. Or, on n'est pas sensuel sans être un peu fétichiste. Le poète a le fétichisme des mots et des sons. Il prête des vertus merveilleuses, certaines combinaisons de syllabes, et tant comme les dévots croire à l'efficacité des formules consacrées. Il y a dans la versification plus de liturgie qu'on ne croit. Et pour un poète blanchi dans la poétique, faire des vers, c'est accomplir les rites sacrés. Cet état d'esprit est essentiellement conservateur, et il ne faut point s'étonner de l'intolérance qui en est le naturel effet. À peine a-t-on le droit de sourire, en voyant que ceux qui, à tort ou à raison, prétendent avoir le plus innové sont ceux-là même qui repoussent les nouveautés avec le plus de colère ou de dégoût. C'est là le tour ordinaire de l'esprit humain, et l'histoire de la Réforme en a fait paraître des exemples tragiques. On a vu un Henri Estienne qui, contraint de fuir pour échapper au bûcher, du fond de sa retraite, dénonçait au bourreau ses propres amis qui ne pensaient pas comme lui. On a vu Calvin, et l'on sait que l'intolérance des révolutionnaires n'est pas médiocre. J'ai connu jadis un vieux sénateur de la République qui, dans sa jeunesse, avait conspiré avec toutes les sociétés secrètes contre Charles X, fomenté 60 émeutes sous le gouvernement de Juillet, tramé, déjà vieux, des complots pour renverser l'Empire et pris sa large part de 3 révolutions. C'était un vieillard paisible qui gardait dans les débats des assemblées une douceur souriante. Il semblait que rien ne dût troubler désormais son repos, acheté par tant de fatigue. Il ne respirait plus que la paix et le contentement. Un jour, pourtant, je le vis indigné. Un feu, qu'on croyait depuis longtemps éteint, brillait dans ses yeux. Il regardait par une fenêtre du palais un monôme d'étudiant qui déroulait sa queue dans le jardin du Luxembourg. La vue de cette innocente émeute lui inspirait une sorte de fureur. « Un tel désordre sur la voie publique !» s'écria-t-il d'une voix étranglée par la colère et l'épouvante. Et il appelait la police. C'était un brave homme, mais après avoir fait les émeutes, il en craignait l'ombre. Ceux qui ont fait des révolutions ne souffrent pas qu'on en veuille faire après eux. Semblablement, les vieux poètes, qui ont marqué dans quelques changements poétiques, ne veulent plus qu'on change rien. En cela, ils sont hommes. Il est pénible, quand on n'est point un grand sage, de voir la vie continuer après soi et de se sentir noyé dans l'écoulement des choses. Poète, sénateur ou cordonnier, on se résigne mal n'être pas la fin définitive des mondes et la raison suprême de l'univers. On peut dire que la plupart du temps, les poètes ne connaissent pas les lois scientifiques auxquelles ils obéissent quand ils font des vers excellents. En matière de prosodie, ils s'en tiennent, avec raison, à l'empirisme le plus naïf. Il serait bien peu intelligent de les en blâmer. En art, comme en amour, l'instinct suffit, et la science n'y porte qu'une lumière importune. Bien que la beauté relève de la géométrie, c'est par le sentiment seul qu'il est possible d'en saisir les formes délicates. Les poètes sont heureux. Une part de leur force est dans leur ignorance même. Seulement, il ne faut pas qu'ils disputent trop vivement des lois de leur art. Ils y perdent leur grâce avec leur innocence. Et, comme les poissons tirés hors de l'eau, ils se débattent vainement dans les régions arides de la théorie. C'est une grande niaiserie que le « connais-toi toi-même » de la philosophie grecque. Nous ne connaîtrons jamais, ni nous ni autrui. Il s'agit bien de cela. Créer le monde est moins impossible que de le comprendre. Hegel en sut quelques soupçons. Il se peut que l'intelligence nous serve un jour à fabriquer un univers, mais à concevoir celui-ci jamais. Aussi bien est-ce faire un abus vraiment inique de l'intelligence que de l'employer à rechercher la vérité. Encore moins peut-elle nous servir à juger selon la justice les hommes et leurs œuvres. Elle s'emploie proprement à ces jeux, plus compliqués que la marelle ou les échecs, qu'on appelle métaphysique, éthique, esthétique. Mais où elle sert le mieux et donne le plus d'agrément, c'est saisir ça et là quelques saillies ou clartés des choses et en jouir sans gâter cette joie innocente par esprit de système et manie de juger. Vous dites que l'état méditatif est la cause de tous nos maux. Pour croire cet état si funeste, il en faut beaucoup exagérer la grandeur et la puissance. En réalité, l'intelligence usurpe bien moins qu'on ne croit sur les instincts, les sentiments naturels, même chez les hommes, dont l'intelligence a le plus de force et qui sont égoïstes, avares et sensuels comme les autres hommes. On ne verra jamais un physiologiste soumettre au raisonnement les battements de son cœur et le rythme de sa respiration. Dans la civilisation la plus savante, les opérations auxquelles l'homme se livre avec une méthode philosophique demeurent peu nombreuses et peu importantes au regard de celles que l'instinct et le sens commun accomplissent seuls. Et nous réagissons si peu contre les mouvements réflexes que je n'ose pas dire qu'il y a dans les sociétés humaines un état intellectuel en opposition avec l'état de nature. À tout considérer, un métaphysicien ne diffère pas du reste des hommes autant qu'on croit et qu'il veut qu'on croit. Et qu'est-ce que penser? Et comment pense-t-on? Nous pensons avec des mots. Cela seul est sensuel et ramène à la nature. Songez-y, un métaphysicien n'a, pour constituer le système du monde, que le cri perfectionné des singes et des chiens. Ce qu'il appelle spéculation profonde et méthode transcendante, c'est de mettre bout à bout, dans un état arbitraire, les onomatopées qui criaient la faim, la peur et l'amour dans les forêts primitives et auxquelles se sont attachées peu à peu des significations qu'on croit abstraites quand elles sont seulement relâchées. N'ayez pas peur que cette suite de petits cris éteints et affaiblis qui composent un livre de philosophie nous en apprenne trop sur l'univers pour que nous ne puissions plus y vivre. Dans la nuit où nous sommes tous, le savant se cogne au mur, tandis que l'ignorant reste tranquillement au milieu de la chambre. À Gabriel Céaille. Je ne sais si ce monde est le pire des mondes possibles. C'est le flatter, je crois, que de lui accorder quelque excellence, fût-ce celle du mal. Ce que nous pouvons imaginer des autres mondes est peu de choses, et l'astronomie physique ne nous renseigne pas bien exactement sur les conditions de la vie à la surface des planètes, même les plus voisines de la nôtre. Nous savons seulement que Vénus et Mars ressemblent beaucoup à la Terre. Cette seule ressemblance nous permet de croire que le mal y règne comme ici, et que la Terre n'est qu'une des provinces de son vaste empire. Nous n'avons aucune raison de supposer que la vie est meilleure, la surface des mondes géants, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui glissent en silence dans des espaces où le soleil commence d'épuiser sa chaleur et sa lumière. Qui sait ce que sont les êtres sur ces globes enveloppés de nuées épaisses et rapides? Nous ne pouvons nous empêcher de penser, par analogie, que notre système solaire tout entier est une géhenne, où l'animal naît par la souffrance et pour la mort. Et il ne nous reste pas l'illusion de concevoir que les étoiles éclairent des planètes plus heureuses. Les étoiles ressemblent trop à notre soleil. La science a décomposé le faible rayon qu'elles mettent des années et des siècles à nous envoyer. L'analyse de leur lumière nous a fait connaître que les substances qui brûlent à leur surface sont celles-là même qui s'agitent sur la sphère de l'astre, qui depuis qu'il est des hommes éclaire et réchauffe leur misère, leur folie et leur douleur. Mais cette analogie suffirait seule à me dégoûter de l'univers. L'unité de sa composition chimique me fait assez pressentir la monotonie rigoureuse des états d'âme et de chair qui se produit dans son inconcevable étendue. Et je crains raisonnablement que tous les êtres pensants ne soient aussi misérables dans le monde de Sirius et dans le système d'Altaïr qu'ils le sont à notre connaissance sur la Terre. Mais dites-vous, tout cela n'est pas l'univers. Oh, j'en ai bien aussi quelques soupçons. Et je sens que ces immensités ne sont rien, et qu'enfin s'il y a quelque chose, ce quelque chose n'est pas ce que nous voyons. Je sens que nous sommes dans une fantasmagorie et que notre vue de l'univers est purement l'effet du cauchemar, de ce mauvais sommeil qui est la vie. Et c'est cela le pis, car il est clair que nous ne pouvons rien savoir, que tout nous trompe et que la nature se joue cruellement de notre ignorance et de notre imbécilité. À Paul Hervieux. Oh, je suis persuadé que l'humanité a de tout temps la même somme de joie, de folie et de bêtises à dépenser. C'est un capital qui doit fructifier d'une manière ou d'une autre. La question est de savoir si, après tout, les insanités consacrées par le temps ne constituent pas le placement le plus sage qu'un homme puisse faire de sa bêtise. Loin de me réjouir quand je vois s'en aller quelques vieilles erreurs, je songe à l'erreur nouvelle qui viendra la remplacer, et je me demande avec inquiétude si elle ne sera pas plus incommode ou plus dangereuse que l'autre. À tout bien considérer, les vieux préjugés sont moins funestes que les nouveaux. Le temps, en les usant, les a polis et rendus presque innocents. Ceux qui ont le sentiment et le goût de l'action font dans les desseins les mieux concertés la part de la fortune, sachant que toutes les grandes entreprises sont incertaines. La guerre et le jeu nous enseignent ces calculs de probabilité qui font saisir les chances sans s'user à les attendre toutes. Quand on dit que la vie est bonne et quand on dit qu'elle est mauvaise, on dit une chose qui n'a point de sens. Il faut dire qu'elle est bonne et mauvaise à la fois, car c'est par elle et par elle seule que nous avons l'idée du bon et du mauvais. La vérité est que la vie est délicieuse, horrible, charmante, affreuse, douce, amère, et qu'elle est tout. Il en est d'elle comme de l'arlequin du bon Florian. L'un la voit rouge, l'autre la voit bleue, et tous les deux la voient comme elle est, puisqu'elle est rouge et bleue et de toutes les couleurs. Voilà de quoi nous mettre tous d'accord et réconcilier les philosophes qui se déchirent entre eux. Mais nous sommes ainsi faits que nous voulons forcer les autres à sentir et à penser comme nous, et que nous ne permettons pas à notre voisin d'être gai quand nous sommes tristes. Le mal est nécessaire. S'il n'existait pas, le bien n'existerait pas non plus. Le mal est l'unique raison d'être du bien. Que serait le courage loin du péril et la pitié sans la douleur? Que deviendrait le dévouement et le sacrifice au milieu du bonheur universel? Peut-on concevoir la vertu sans le vice, l'amour sans la haine, la beauté sans la laideur? C'est grâce au mal et à la souffrance que la terre peut être habitée et que la vie vaut la peine d'être vécue. Aussi ne faut-il pas trop se plaindre du diable. C'est un grand artiste et un grand savant. Il a fabriqué pour le moins la moitié du monde. Et cette moitié est si bien emboîtée dans l'autre qu'il est impossible d'entamer la première sans causer du même coup une semblable dommage à la seconde. À chaque vice qu'on détruit correspond une vertu qui périt avec lui. J'ai eu le plaisir de voir un jour à une foire de village la vie du grand Saint-Antoine représentée par des marionnettes. Oh, c'est un spectacle qui passe en philosophie les tragédies de Shakespeare et les drames de M. d'Ennery. Oh, qu'on apprécie bien là, tout ensemble, la grâce de Dieu et celle du diable. Le théâtre représente une solitude affreuse, mais qui sera bientôt peuplée d'anges et de démons. L'action, en se déroulant, imprime dans les cœurs une terrible impression de fatalité qui résulte de l'intervention symétrique des démons et des anges, ainsi que de l'allure des personnages qui sont conduits par des fils qui tiennent une main invisible. Pourtant, quand, après avoir fait sa prière, le grand Saint-Antoine, encore agenouillé, soulève son front, devenu calleux comme le genou des chameaux, pour avoir été longtemps prosterné sur la pierre, et levant les yeux brûlés de larmes, voit devant lui la reine de Saba, qui les bras ouverts lui sourit dans sa robe d'or. On frémit, on tremble qu'il ne succombe, on suit avec angoisse le spectacle de son trouble et de sa détresse. Mais nous nous reconnaissons tous en lui. Et quand il a triomphé, nous nous associons tous à son triomphe. C'est celui de l'humanité tout entière dans sa lutte éternelle. Saint Antoine n'est un grand saint que parce qu'il a résisté à la reine de Saba. Oh, il faut bien le reconnaître. En lui envoyant cette belle dame qui cache son pied fourchu sous une longue robe brodée de perles, le diable fit une besogne nécessaire à la sainteté de l'ermite. Ainsi, le spectacle des marionnettes m'a confirmé dans cette idée que le mal est indispensable au bien et le diable nécessaire à la beauté morale du monde. J'ai toujours trouvé chez des savants la candeur des enfants, et l'on voit tous les jours des ignorants qui se croient l'axe du monde. Hélas, chacun de nous se voit le centre de l'univers. C'est la commune illusion. Le balayeur de la rue n'y échappe pas. Elle lui vient de ses yeux, dont les regards, arrondissant autour de lui la voûte céleste, le mettent au beau milieu du ciel et de la terre. Peut-être cette erreur est-elle un peu ébranlée chez celui qui a beaucoup médité. L'humilité est rare chez les doctes, l'est encore plus chez les ignares. Une théorie philosophique du monde ressemble au monde comme une sphère sur laquelle on tracerait seulement des degrés de longitude et de latitude ressembleraient à la Terre. La métaphysique a cela d'admirable qu'elle ôte au monde tout ce qu'il y a et qu'elle lui donne ce qu'il n'avait pas. Travail merveilleux sans doute et le jeu plus beau, plus illustre incomparablement que les dames et que les échecs, mais à tout prendre de même nature. Le monde pensé se réduit à des lignes géométriques dont l'arrangement amuse. Un système comme celui de Kant ou de Hegel ne diffère pas essentiellement de ces réussites par lesquelles les femmes trompent avec Descartes l'ennui de vivre. Peut-on, me dis-je en lisant ce livre, nous charmer ainsi, non point avec des formes et des couleurs, comme fait la nature en ces bons moments, qui sont rares, mais avec de petits signes empruntés au langage. Ces signes éveillent en moi des images divines. C'est là le miracle. Un beau vers est comme un archet promené sur nos fibres sonores. Ce ne sont pas ses pensées, ce sont les nôtres que le poète fait chanter en nous. Quand il nous parla d'une femme qu'il aime, ce ne sont nos amours et nos douleurs qu'il éveille délicieusement en notre âme. Il est un évocateur, et quand nous le comprenons, nous sommes aussi poètes que lui. Nous avons en nous, tout ce temps que nous sommes, un exemplaire de chacun de nos poètes que personne ne connaît et qui périra à jamais avec toutes ses variantes lorsque nous ne sentirons plus rien. Et croyez-vous que nous aimerions tant nos lyriques s'ils nous parlaient d'autre chose que de nous? Quel heureux malentendu! Les meilleurs d'entre eux sont des égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils n'ont mis qu'eux dans leurs vers. Et nous n'y trouvons que nous. Les poètes nous aident à aimer, ils ne servent qu'à cela. Et c'est un assez bel emploi de leur vanité délicieuse. Aussi en est-il de leurs strophes comme des femmes. Rien n'est plus vain que de les louer. La mieux aimée sera toujours la plus belle. Quant à faire confesser au public que celle qu'on a choisie est incomparable. Cela est plutôt d'un chevalier errant que d'un homme sage. Je ne sais si, comme la théologie l'enseigne, la vie est une épreuve. En tout cas, ce n'est pas une épreuve à laquelle nous soyons soumis volontairement. Les conditions n'en sont pas réglées avec une clarté suffisante. Enfin, elle n'est point légale pour tous. Qu'est-ce que l'épreuve de la vie pour les enfants qui meurent sitôt nés, pour les idiots ou les fous? Voilà des objections auxquelles on a déjà répondu. On y répond toujours. Et il faut que la réponse ne soit pas très bonne pour qu'on soit obligé de la faire 100 fois. La vie n'a pas l'air d'une salle d'examen. Elle ressemble plutôt à un vaste atelier de poterie où l'on fabrique toutes sortes de vases pour des destinations inconnues et dont plusieurs, rompus dans le moule, sont rejetés comme de vils tessons sans avoir jamais servi. Les autres ne sont employés qu'à des usages absurdes et dégoûtants. Ces pots, c'est nous. À Pierre Weber. La destinée du Judas de Kériote nous plonge dans un abîme d'étonnement. Car enfin, cet homme est venu pour accomplir les prophéties. Il fallait qu'il vendît le Fils de Dieu pour 30 deniers. Et le baiser du traître est, comme la lance et les clous vénérés, un des instruments nécessaires de la passion. Sans Judas, le mystère ne s'accomplissait point, et le genre humain n'était point sauvé. Et pourtant, c'est une opinion constante parmi les théologiens que Judas est damné. Il la fonde sur cette parole du Christ, « Il eût mieux valu pour lui n'être pas né. » Cette idée que Judas a perdu son âme en travaillant au salut du monde a tourmenté plusieurs chrétiens mystiques, et entre autres l'abbé Heuger, premier vicaire de la cathédrale de Paris. Ce prêtre, qui avait l'âme pleine de pitié, ne pouvait tolérer l'idée que Judas souffrait dans l'enfer les tourments éternels. Il y songeait sans cesse, et son trouble croissait dans ses perpétuelles méditations, et il en vint à penser que le rachat de cette malheureuse âme intéressait la miséricorde divine, et qu'en dépit de la parole obscure de l'Évangile et de la tradition de l'Église, l'homme de Kerloth devait être sauvé. Ses doutes lui étaient insupportables. Il voulut en être éclairci. Une nuit, comme il ne pouvait dormir, il se leva et entra par la sacristie dans l'église déserte où les lampes perpétuelles brûlaient sous d'épaisses ténèbres. Là, s'étant prosterné aux pieds du maître-autel, il lit cette prière. « Mon Dieu, Dieu de clémence et d'amour, s'il est vrai que tu as reçu dans ta gloire le plus malheureux de tes disciples, s'il est vrai, comme je l'espère et le veux croire, que Judas Iscariote est assis à ta droite, ordonne qu'il descende vers moi et qu'il m'annonce lui-même le chef-d'œuvre de ta miséricorde. Et toi, qu'on maudit depuis 18 siècles, et que je vénère parce que tu sembles avoir pris l'enfer pour toi seul, afin de nous laisser le ciel, bouc émissaire des traîtres et des infâmes, ah Judas, viens m'imposer les mains pour le sacerdoce de la miséricorde et de l'amour. » Après avoir fait cette prière, le prêtre prosterné sentit deux mains se poser sur sa tête comme celle de l'évêque le jour de l'ordination. Le lendemain, il annonçait sa vocation à l'archevêque. « Je suis, lui dit-il, prêtre de ta miséricorde selon l'ordre de Judas, secundum ordinem Judas. » Et dès ce jour même, M. Heuger alla prêcher par le monde l'évangile de la pitié infinie au nom de Judas racheté. Son apostolat s'enfonça dans la misère et dans la folie. M. Heuger devint Swedenborgien et mourut à Munich. C'est le dernier et le plus doux des caïnites. Monsieur Aristide, qui est grand chasseur à tir et à court, a sauvé une nidée de chardonnerets très éclos dans un rosier sous sa fenêtre. Un chat grimpait dans le rosier. Il est bon dans l'action de croire aux causes finales et de penser que les chats sont faits pour détruire les souris ou pour recevoir du plomb dans les côtes. Monsieur Aristide prit son revolver et tira sur le chat. On est content d'abord de voir les chardonnerets sauvés et leur ennemi puni. Mais il en est de ce coup de revolver comme de toutes les actions humaines. On n'en voit plus la justice quand on y regarde de trop près. Car si l'on y réfléchit, ce chat qui était un chasseur comme M. Aristide pouvait bien, comme lui, croire aux causes finales, et dans ce cas, il ne doutait point que les chardonnerets ne fussent pondus pour lui. C'est une illusion bien naturelle. Le coup de revolver lui apprit un peu tard qu'il se trompait sur la cause finale des petits oiseaux qui piaillent dans les rosiers. Mais quel être ne se croit pas la fin de l'univers et n'agit pas comme s'il l'était ? C'est la condition même de la vie. Chacun de nous pense que le monde aboutit à lui. Bon, quand je parle de nous, je n'oublie pas les bêtes. Il n'est pas un animal qui ne se sente la fin suprême où tendait la nature. Nos voisins, comme le revolver de M. Aristide, ne manque point de nous détromper un jour ou l'autre, nos voisins, ou seulement un chien, un cheval, un microbe, un grain de sable. Tout ce qui ne vaut que par la nouveauté du tour et par un certain goût d'art vieillit vite. La mode artiste passe comme toutes les autres modes. Il en est des phrases affrétées et qui veulent être neuves comme des robes qui sortent de chez les grands couturiers. Elles ne durent qu'une saison. À Rome, au déclin de l'art, les statues des impératrices étaient coiffées à la dernière mode. Ces coiffures devenaient bientôt ridicules, il fallait les changer, et l'on mettait aux statues des perruques de marbre. Il conviendrait qu'un style peigné comme ces statues fût recoiffé tous les ans. Et il se trouve qu'en ces temps-ci, où nous vivons très vite, les écoles littéraires ne subsistent que peu d'années et parfois que peu de mois. Je sais des jeunes gens dont le style date déjà de 2 ou 3 générations et semble archaïque. C'est sans doute l'effet de ce progrès merveilleux de l'industrie et des machines qui emportent les sociétés étonnées. Au temps de messieurs de Goncourt et les chemins de fer, on pouvait vivre encore assez longtemps sur une écriture artiste. Mais depuis le téléphone, la littérature, qui dépend des mœurs, renouvelle ses formules avec une rapidité décourageante. Nous dirons donc avec M. Ludovic à Lévis que la forme simple, la seule faite pour traverser paisiblement, non pas des siècles, ce qui est trop dire, mais des années. La seule difficulté est de définir la forme simple. Et il faut convenir que cette difficulté est grande. La nature, telle du moins que nous pouvons la comprendre et dans les milieux appropriés à la vie, ne nous présente rien de simple et l'art ne peut prétendre à plus de simplicité que la nature. Pourtant, nous nous entendons assez bien quand nous disons que tel style est simple et que tel autre ne l'est pas. Je dirais donc que s'il n'y a pas proprement de style simple, il y a des styles qui paraissent simples, et que c'est précisément cela qui semble attacher la jeunesse et la durée. Il ne reste plus qu'à rechercher d'où leur vient cette apparence heureuse, et l'on pensera sans doute qu'ils la doivent, non pas à ce qu'ils sont moins riches que les autres en éléments divers, mais bien à ce qu'ils forment un ensemble où toutes les parties sont si bien fondues qu'on ne les distingue plus. Un bon style, enfin, est comme ce rayon de lumière qui entre par ma fenêtre au moment où j'écris et qui doit sa clarté pure à l'union intime de ces 7 couleurs dont il est composé. Le style simple est semblable à la clarté blanche. Il est complexe, mais il n'y paraît pas. Ce n'est là qu'une image, et l'on sait le peu que valent les images, quand ce n'est pas un poète qui les assemble. Mais j'ai voulu donner à entendre que, dans le langage, la simplicité belle et désirable n'est qu'une apparence, et qu'elle résulte uniquement du bon ordre de l'économie souveraine des parties du discours. Ne pouvant concevoir la beauté indépendante du temps et de l'espace, je ne commence à me plaire aux œuvres de l'esprit qu'au moment où j'en découvre les attaches avec la vie, et c'est le point de jointure qui m'attire. Les grossières poteries d'Issardique m'ont fait mieux aimer l'Iliade, et je goûte mieux la divine comédie pour ce que je sais de la vie florentine au XIIIe siècle. C'est l'homme et l'homme seulement que je cherche dans l'artiste. Le poème le plus beau est-il autre chose qu'une relique? Goethe a dit une parole profonde. Les seules œuvres durables sont des œuvres de circonstances. Mais il n'y a là à tout prendre que des œuvres de circonstances, car toutes dépendent du lieu et du moment où elles furent créées. On ne peut les comprendre ni les aimer d'un amour intelligent si l'on ne connaît le lieu, le temps et les circonstances de leur origine. C'est le fait d'une imbécilité orgueilleuse de croire qu'on a produit une œuvre qui se suffit à elle-même. La plus haute n'a de prix que pour ses rapports avec la vie. Mieux je saisis ces rapports, plus je m'intéresse à l'œuvre. On peut, on doit tout dire quand on sait tout dire. Il y aurait tant d'intérêt à entendre une confession absolument sincère. Et depuis qu'il y a des hommes, rien de pareil n'a encore été entendu. Aucun n'a tout dit, pas même cet ardent Augustin, plus occupé de confondre les manichéens que de mettre son âme à nu, non pas même ce pauvre grand Rousseau, que sa folie portait à se calomnier lui-même. Les influences secrètes du jour et de l'air, ces mille souffrances émanant de toute la nature, sont la rançon des êtres sensuels, enclins à chercher leur joie dans les formes et dans les couleurs. L'intolérance est de tous les temps. Il n'est point de religion qui n'ait eu ses fanatiques. Nous sommes tous enclins à l'adoration. Tout nous semble excellent dans ce que nous aimons, et cela nous fâche quand on nous montre le défaut de nos idoles. Les hommes ont grand-peine à mettre un peu de critique dans les sources de leur croyance et dans l'origine de leur foi. Aussi bien, si l'on regardait trop au principe, on ne croirait jamais. Beaucoup de gens aujourd'hui sont persuadés que nous sommes parvenus à l'arrière-fin des civilisations et qu'après nous, le monde périra. Ils sont millénaires comme les saints des premiers âges chrétiens, mais ce sont des millénaires raisonnables au goût du jour. C'est peut-être une sorte de consolation de se dire que l'univers ne nous survivra pas. Pour ma part, je ne découvre dans l'humanité aucun signe de déclin. J'ai beau entendre parler de la décadence, je n'y crois pas. Je ne crois même pas que nous soyons parvenus au plus haut point de civilisation. Je crois que l'évolution de l'humanité est extrêmement lente et que les différences qui se produisent d'un siècle à l'autre dans les mœurs sont, allez bien mesurées, plus petites qu'on ne s'imagine. Mais elles nous frappent et les innombrables ressemblances que nous avons avec nos pères, nous ne les remarquons pas. Le train du monde est lent. L'homme a le génie de l'imitation. Il n'invente guère. Il y a en psychologie comme en physique une loi de la pesanteur qui nous attache au vieux sol. Théophile Gautier, qui était à sa façon un philosophe, avec quelque chose de turc dans sa sagesse, remarquait non sans mélancolie que les hommes n'étaient pas même parvenus à inventer un huitième péché capital. Ce matin, en passant dans la rue, j'ai vu des maçons qui bâtissaient une maison et qui soulevaient des pierres comme les esclaves de Thèbes et de Ninive. J'ai vu des mariés qui sortaient de l'église pour aller au cabaret, suivis de leur cortège, et qui accomplissaient sans mélancolie les rites tant de fois séculaires. J'ai rencontré un poète lyrique qui m'a récité ces vers qu'il croit immortels. Et pendant ce temps-là, des cavaliers passaient sur la chaussée portant un casque, le casque des légionnaires et des hoplites, le casque en bronze clair des guerriers homériques, d'où pendait encore, pour terrifier l'ennemi, la crinière mouvante qui effraya l'enfant Astyanax dans les bras de sa nourrice à la belle ceinture. Ces cavaliers étaient des gardes républicains. À cette vue, et songeant que les boulangers de Paris cuisent le pain dans des fours, comme au temps d'Abraham et de Gouléa, j'ai murmuré la parole du livre « Rien de nouveau sous le soleil ». Et je ne m'étonnais plus de subir des lois civiles qui étaient déjà vieilles quand César Justinien en forma un corps vénérable. Une chose surtout donne de l'attrait à la pensée des hommes, c'est l'inquiétude. Un esprit qui n'est point anxieux m'irrite ou m'ennuie. Nous appelons dangereux ceux qui ont l'esprit fait autrement que le nôtre et immoraux ceux qui n'ont point notre morale. Nous appelons sceptiques ceux qui n'ont point nos propres illusions, sans même nous inquiéter s'ils en ont d'autres.